France Musique.
L'heure de recevoir nos premières invitées de la saison. Bonjour Maria Milstein.
Bonjour.
Violoniste. Bonjour Natalia Milstein. Pianiste.
Bonjour.
Et sœur. C'est votre deuxième disque ensemble en duo, Ravel Voyageur. Il sort vendredi chez Mirare. Un extrait dans un instant, mais d'abord, Ravel. Hier soir, Renaud Capuçon au violon, Jean-François Esser au piano, ont joué Maurice Ravel au dîner de clôture du G7 à Biarritz. Ravel basque, natif de Cibourg. Ça vous inspire quoi?
C'est un bel hommage, évidemment. J'ai eu la chance d'être pas loin de Cibourg il y a quelques années et de voir la maison où Ravel est né. Et c'est très inspirant de savoir où sont les racines.
Vous auriez joué, vous, pour Donald Trump?
Bonne question. Mais je crois que c'est un très bel hommage. Et si je me souviens bien, pour la cérémonie, pour le centenaire de l'armistice, l'année dernière, il y avait aussi de la musique de Ravel qui a été jouée, aussi d'ailleurs par, entre autres, Renaud Capuçon. Mais le fait justement que Ravel soit choisi comme compositeur national, c'est une belle chose, alors qu'il n'était pas nationaliste du tout. Pas du tout.
Si ça peut apaiser les âmes, non, c'était un musicien pas du tout nationaliste, qui n'a pas voulu signer pendant la Première Guerre mondiale certains textes attaquant la musique allemande.
Voilà.
Alors, si Ravel peut apaiser les âmes au G7, tant mieux. Quand on est au Pays Basque et à Cibourg, on est à quoi, quelques encablures de l'Espagne, si chère au cœur de Ravel, qu'on entend sur votre disque Ravel Voyageur. Allez, c'est pour les auditrices et les auditeurs de France Musique et pas pour les grands de ce monde que voici la dernière plage de votre disque, une pièce en forme de habanera. Elle rigole en s'écoutant, Maria et Natalia Milstein, pièce en forme de habanera, Maurice Ravel, extrait de ce disque Ravel Voyageur. Pourquoi en forme de habanera, Natalia?
Oui. Parce que c'est inspiré de la danse espagnole habanera qui est caractéristique.
Mais ce n'est pas une habanera.
Non, en fait, c'est parce que c'est une inspiration. C'est ce qu'on entend dans cette pièce, c'est ce rythme très typique de la habanera, le rythme pointé. Et elle est toute la pièce. Ce rythme traverse toute la pièce. Mais évidemment, Ravel s'est permis de faire sa propre improvisation sur ce rythme, donc en forme de habanera.
C'est conçu à l'origine comme une vocalise. Enfin, c'est une œuvre à l'origine pour voix et piano. Et donc, je crois que c'est une vocalise. Elle est juste chantée sur une voyelle.
Beaucoup de musique espagnole ou d'inspiration ou d'influence espagnole dans la musique de Maurice Ravel. Comment vous avez fait des choix pour ce disque?
Alors, espagnol, oui, mais pas seulement parce que, justement, pourquoi nous avons appelé ce disque Ravel Voyageur, c'est parce que, finalement, alors qu'on choisissait justement le répertoire pour ce disque, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'influences. C'est assez éclectique parce que si on parle par exemple de la grande sonate, le deuxième mouvement, le blues, ça c'est l'inspiration du jazz qui est venu d'Amérique, et d'ailleurs qu'on entend aussi un peu dans le dernier mouvement, le Perpetuum Mobile. Après, il y a aussi on a choisi d'autres transcriptions comme par exemple le Kaddish, qui est également une œuvre pour voix et piano mais qui est souvent jouée au violon, bon là c'est bien sûr la prière juive. Nous avons aussi sur ce disque
des
mélodies grecques. Ça c'est une petite première parce que je ne pense pas qu'elles ont été transcrites avant, donc j'ai pris la liberté de transcrire la voix pour violon, donc influence grecque aussi. Je dois encore en oublier des influences sur ce CD, mais en tout cas c'est
Tzigane,
oui bien sûr, oui, pas la moindre. Donc c'est ça qui a été notre fil rouge. C'est justement en assemblant ce programme que nous nous sommes rendus compte justement de cet éclectisme, et c'est ça aussi qui nous a poussé à faire cet arrangement des mélodies grecques pour compléter un peu cet album.
Ça vous trottait dans la tête depuis longtemps, ce programme-là de Maurice Ravel? C'est une musique que vous jouez depuis longtemps, les deux.
Alors, la grande sonate, effectivement, on l'a joué, oui, elle est pas mal dans nos programmes depuis ces dernières années. La sonate posthume aussi, qui est sa première sonate pour violon et piano. Mais Ravel, en général, est un compositeur qui nous parle beaucoup et qu'on aime beaucoup écouter depuis qu'on est petite, je pense, toutes les deux.
Quand vous parlez de la grande sonate, en fait, il y a une première sonate qu'il écrit tout jeune, Maurice Ravel. Il a 22 ans, en 1897, et qui est au début de votre disque. Sonate dite posthume, parce qu'en fait, on l'a numéroté ensuite.
Oui, justement, parce que Ravel ne l'a jugé pas digne de son œuvre, et il n'a jamais voulu la publier de son vivant. Et ce qui est dommage.
Et que vous enregistrez donc. Et puis cette deuxième sonate, cette grande sonate, où on sent là aussi l'influence peut-être de la musique d'Europe de l'Est, Bartok par exemple.
Aussi. Dans certains rythmes, il y a ça, il y a l'influence du jazz des États-Unis. Je crois qu'il y a eu une rencontre avec Gershwin pendant ces années-là. C'est assez fascinant de voir ces deux mondes se rencontrer, mais c'est surtout qu'est-ce que fait Ravel avec cela, parce que on peut parler d'influence et de tout, mais finalement c'est la magie de Ravel, c'est que ça reste du Ravel. On reconnaît Ravel tout de suite, que ça soit Tzigane, que ça soit le blues, que ça soit la habanera. On se dit tout de suite, mais ça c'est du Ravel. C'est la façon dont lui, il transforme ça, comment ça passe par son prisme.
Allez, la deuxième sonate, voici le troisième mouvement, Perpetuum Mobile. Thank you. Appelé Perpetuum Mobile, ce troisième mouvement de sa deuxième sonate, sa seule sonate pour lui, Maurice Ravel. Maria Milstein au violon, Natalia Milstein au piano, nos invités toutes les deux ce matin sur France Musique dans Musique Matin. C'est votre disque Ravel Voyageur qui sort vendredi, mais on en écoute ce matin en exclusivité de Première Plage. Avec cette musique, on parlait de Ravel qui est influencé par les musiques venues d'ailleurs, mais est-ce qu'il a beaucoup voyagé?
Alors, il n'a pas énormément voyagé de toute façon de son temps. De toute façon, de son temps, c'était pas quelque chose qui se faisait beaucoup. Debussy, on sait aussi qu'il a très peu voyagé, alors que, pareil, dans sa musique, on retrouve énormément d'influence. Mais Ravel voyageait intérieurement, on peut dire ça, je pense comme ça. Il collectionnait des objets fabriqués. À la façon de bibelots d'Outre-France aussi.
Des faux,
exactement.
C'est ce que vous racontez dans le livret, c'est ce qu'expliquait à Montfort-l'Amaury. Il y a plein de faux partout.
Exactement.
Une espèce de cabinet de curiosité avec des objets qui viennent de partout.
Voilà. Donc il était fasciné par ça. Et c'est vrai que c'est aussi une caractéristique de sa musique. Comme Marielle disait, on entend Ravel tout le temps. Et on entend l'influence et le compositeur. C'est une musique très française, qui reste au fond très française.
A commencer d'ailleurs par l'œuvre la plus connue de Ravel et l'œuvre la plus connue du XXe siècle, le Boléro,
bien
qui
sûr.
Est aussi une musique influencée par l'ailleurs.
Oui, tout à fait, d'une autre inspiration. Et pourtant, d'ailleurs, c'était la musique qui a été choisie pour la commémoration l'année dernière du centenaire de l'armistice. Oui, ça reste du Ravel. C'est tellement bizarre, en fait, surtout dans le Boléro, c'est toujours cette même petite mélodie qui se répète et qui grandit et qui prend une dimension de plus en plus angoissante. Mais c'est incroyable ce qu'il a fait avec ce matériel.
Alors, quand on voyage pas, comment on les découvre, ces sonorités, ces harmonies? Comment on peut savoir que c'est comme ça?
Il a été, je crois que Ravel a visité une exposition universelle où il a justement découvert les musiques d'Extrême-Orient. Il a effectué quelques voyages, il a eu des rencontres musicales. Il y a bien sûr eu Paris aussi était un centre qui attirait beaucoup de monde. Par exemple, si dans le cas de la tzigane, si je ne me trompe pas, c'était la violoniste d'origine tzigane, justement Angeli Darani, que Ravel avait entendue et justement sa façon de jouer et c'est les improvisations qu'elle faisait au violon, ça lui a mis la puce à l'oreille, on peut dire. Il s'est dit oui, d'accord, on peut travailler avec ça. Je pense que finalement, je suppose que comme n'importe quel génie, on est curieux de tout et même ce qui nous entoure est source d'inspiration. Donc il faut pas nécessairement aller à l'autre bout du monde pour trouver quelque chose de fascinant.
Maurice Ravel, Maria, Natalia Milstein, comment ils traitent vos instruments? Le violon, le piano, il y a des moments, le piano est vraiment un instrument de percussion qui va presque sonner comme un cymbalum ou pour parler
oui,
de musique de l'Est.
Il traite, le piano est complètement un orchestre symphonique, je trouve, même dans les partitions les plus épurées, comme enfin le premier mouvement de la deuxième sonate, il n'y a pas tellement de notes, mais toutes les notes ont une instrumentation, je pense. C'est des couleurs qu'ils cherchent, qui ne sont pas pianistiques à proprement parler. En fait, le piano a souvent été traité comme un orchestre symphonique par les compositeurs, à commencer par Bach déjà, je pense. Et chez Ravel, c'est fascinant comment est-ce qu'il arrive justement avec si peu de moyens de trouver une couleur et un instrument différent pour différents motifs, différentes phrases.
Une ouais. couleur très différente avec Maria.
Oui, le violon, en fait, ce qui me fascine à chaque fois chez Ravel, je pense que la première pièce au fait que j'ai travaillé de Maurice Ravel, c'était son trio pour violon, violoncelle et piano. Et c'est quand on regarde la partition, on se dit mais c'est on peut pas jouer ça, c'est impossible. Et au fait, on joue et on se dit mais si, mais au fait, il comprend cet instrument. Et il utilise toutes ses ressources aussi, les harmoniques, les pizzicato, enfin, surtout dans la tzigane, mais c'est une écriture extrêmement intelligente.
Autre extrait de votre disque, voici une berceuse ce matin sur France Musique. Ne vous endormez pas, même si c'est une berceuse, sur le nom de Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Maria Milstein au violon, Natalia Milstein au piano. Elle est peu connue, Maria, cette pièce.
Peu connue, en effet. C'est une pièce très introvertie. C'est tellement introvertie que les violonistes n'osent pas la jouer en bis. Ce qui est, mais c'est un petit joyau.
Avec le violon en sourdine.
Voilà. C'est qui crée cette couleur un peu onirique. Et c'est un rêve un peu étrange, avec des harmonies un peu acides. Oui.
On parlait des instruments, Natalia, l'instrument sur lequel vous jouez sur ce disque, il est un petit peu particulier.
Tout à fait, oui. C'est un instrument qui a été créé et conçu par Stephen Pulello, nommé l'Opus 102, 102 parce qu'il a 102 touches au lieu de 88.
Qu'est-ce que ça change d'avoir, si je compte bien, 14 touches en plus?
C'est ça. C'est...
Parce qu'il n'a pas écrit pour ces touches-là, Maurice.
Non, bien sûr que non, non. Et d'ailleurs, il y a peu de compositeurs, avant l'ère contemporaine, disons, qui ont... fait cela, puisqu'il y avait, je crois, que Bösendorfer à un moment donné qui a rajouté des touches en plus en bas, mais en l'occurrence ce n'est pas seulement pour donner une possibilité au compositeur de créer avec ces notes là mais aussi pour donner plus de puissance au piano, parce que c'est un piano qui a des touches droites, des cordes, merci de me corriger, c'est le matin, des cordes droites, contrairement au piano classique qui ont des cordes croisées, justement pour donner plus de puissance dans les basses. Et ici, il s'est compensé justement par un clavier beaucoup plus large, ce qui fait que c'est un piano, c'est l'un des, je pense, les pianos les plus puissants qu'il m'ait été donné de jouer. Et c'est un piano qui a des couleurs très particulières aussi, très belles.
Qu'on vient d'entendre donc sur ce disque Ravel Voyageur, votre deuxième disque ensemble. Vous jouez depuis toujours ensemble, j'imagine, Maria, Natalia.
Dès que ça a été possible, on a quand même 10 ans de différence. Mais j'ai toujours joué. Dès que Natalia s'est mise au piano, pour moi, c'était tout de suite.
Vous jouez régulièrement en concert. D'ailleurs, vous serez en concert prochainement en septembre dans un festival que vous connaissez bien. C'est dans l'agglomération lyonnaise.
Tout à fait. Oui, donc c'est le festival Musique de Chambre Mondor qui est organisé en fait par nos parents. Voilà.
13, 14 et 15 septembre, vous trouvez le temps de répéter toutes les deux, parce que vous n'habitez pas au même endroit.
Non.
L'une à Berlin, c'est ça? L'une à Amsterdam?
C'est ça.
Oui. Amsterdam et Berlin, oui, c'est une question de planning, comme toujours. Mais on réussit à se rencontrer, soit à Berlin, soit à Amsterdam, soit à Lyon.
Et deux sœurs qui jouent ensemble, ça se passe toujours bien?
Oui. Oui. Oui, non, ça serait bien.
Si.
Allez, on finit avec deux musiques beaucoup moins connues, même moi je connaissais pas du tout. 5 mélodies populaires grecques, là aussi Ravel s'inspire d'un autre pays, voilà ce que ça donne. Deux mélodies populaires grecques de Maurice Ravel, avec vous, Maria Milstein au violon, Natalia Milstein au piano. C'est vous, Maria, qui avez signé cet arrangement?
Oui, enfin, arrangement, j'ai joué la partie vocale, voilà, c'est tout.
Disque Maurice Ravel, Voyageur, qui paraît chez Mirare. Merci d'être venu ce matin pour inaugurer cette nouvelle saison de Musique Matin. Et on vous retrouve donc dans le festival de vos parents, c'est à...
dans l'agglomération lyonnaise, Saint-Cyr au Mont-d'Or, Saint-Didier au Mont-d'Or.
Colombes.
C'est à côté de toute façon.
Les 13, 14 et 15 septembre. Merci.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.